Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors justement, pour prendre soin de vous, pour vous informer, pour vous rassurer même parfois, enfin il essaye en tout cas, hein, il est à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie Gomez, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'ostéoporose, cette maladie osseuse silencieuse, malheureusement qui ne fait parler d'elle bien souvent que lorsque les premières fractures surviennent. Alors, comment faire le diagnostic? Comment peut-on prendre en charge et même peut-être prévenir cette dégénérescence de l'os? Pour en parler dans le détail, nous recevrons le professeur Bernard Corté, rhumatologue et chef de service au CHU de Lille. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, nous parlerons cet après-midi des hémorroïdes, un symptôme très fréquent qui touche autant les hommes que les femmes, mais qui est surtout très désagréable. Eh bien, on fera le point sur ce sujet un peu tabou, il faut le dire. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous éclairera sur ses personnes qui peuvent lier des relations intimes et amoureuses, mais qui malgré tout ne supportent pas les câlins ou même d'être tout simplement touchées.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première, c'est la question de Viviane.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, je vous téléphone en fait une question. J'ai l'impression que mon mari a les yeux qui ont changé de couleur depuis quelques temps, ça vire un peu au gris. Et je voulais savoir, est-ce que ça pourrait être la cataracte selon vous, parce qu'il n'a que 52 ans, c'est possible?
Alors évidemment, une question médicale, il faut toujours mieux consulter son ophtalmologue, hein, évidemment. Mais justement, pour vous répondre quand même dans les grandes lignes, nous avons posé la question à un spécialiste, un habitué de cette émission. C'est le docteur Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild.
Alors il est très peu probable que la cataracte soit évoquée face à un changement de couleur apparent de l'œil, puisque la cataracte concerne le cristallin et que le cristallin ne donne pas sa couleur à l'œil, c'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. L'iris, c'est le petit diaphragme coloré dont l'ouverture varie en fonction de la luminosité. En revanche, dans certains cas, la cataracte peut modifier l'aspect de l'œil, puisque le cristallin est parfois si opaque qu'il a une teinte blanchâtre que l'on peut observer directement au centre de la pupille, avec donc un aspect qui doit faire évoquer la présence d'une cataracte blanche. La cataracte peut en effet apparaître à tous les âges. Chez l'enfant, on parle de cataracte congénitale qui peut s'observer même chez les bébés. Chez les adultes, la cataracte apparaît plutôt vers l'âge de 70-75 ans. Mais en cas de pathologie associée comme le diabète ou chez certains patients qui ont une myopie forte, la cataracte peut arriver plus tôt dans la vie.
Très bien, c'était le docteur Gatinel qu'on salue, qui était au micro de Benjamin Lévesque. Alors à présent, on va passer à la deuxième question auditeur. Cette fois, c'est celle de Claire, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Voilà, la maternelle de mon fils, il y a déjà plein d'enfants qui toussent, qui ont le nez qui coule. Comment est-ce que je peux être sûre qu'ils n'ont pas la Covid? Comment les médecins vont gérer ça d'ailleurs? Parce qu'un enfant en hiver, c'est toujours malade. Voilà, merci beaucoup pour votre tour.
C'est une question que je me pose aussi tous les matins quand je dépose ma petite fille à l'école maternelle. Alors Jimmy, question récurrente ces derniers temps, et on le comprend bien sûr, mais vous l'avez déjà dit, on va le répéter une nouvelle fois, pour les parents inquiets qui nous écoutent. D'abord, tout nez qui coule, c'est pas de la Covid forcément.
Évidemment, et en ce moment, on est en période de rentrée, les températures sont un peu aléatoires, il fait beau, il fait chaud, il fait froid parfois le matin, les enfants se retrouvent et donc ils tombent malades, et donc ils ont le nez qui coule, et ils toussent, et c'est normal, et c'est pas le Covid, c'est des rhumes de saison habituels avec lesquels on vit en temps normal, mais pour lesquels tout d'un coup, on est très angoissé vu le contexte. Alors, la Société française de pédiatrie recommande qu'avant 6 ans, tout enfant qui va avoir le nez qui coule ou qui tousse sans fièvre ne doit pas être sorti de la collectivité. On les laisse à la maternelle et pas d'éviction scolaire et on n'a pas besoin d'aller voir le docteur pour un nez qui coule et on n'a pas besoin de certificat pour un nez qui coule. Les enfants vont faire ça tout au long de l'année.
On vous demande en consultation des parents qui vous disent enfant a été exclu de l'école. Voilà. Faites-moi un certificat pour dire qu'il n'a pas la Covid.
Exactement. Alors les médecins n'ont pas n'ont pas à faire ce genre de certificat d'aptitude en disant qu'ils n'ont pas le Covid, parce que de toute façon la seule façon de le savoir c'est de faire un test. Si on n'a pas spécialement envie de faire des tests à tous les nez qui coulent d'un enfant de 3 ou 4 ans. Et puis les enfants comme ils vont bien et qu'ils n'ont pas de température, eh bien on les laisse tranquilles. Et puis, dans certains cas, on pourra éventuellement les tester, mais dans des critères très, très précis.
Je crois que ça vous complique un peu le travail. Et d'ailleurs, je vous ai vu faire un certificat où il y avait écrit autre chose que ça.
J'avais écrit « Tout nez qui coule ne nécessite pas une éviction de la collectivité ».
Pour la direction d'une école.
Exactement. Alors, c'est vrai que c'est un casse-tête. Hein. Désormais, la moindre rhinopharyngite te prend un temps fou. On ne va pas se mentir. Hein. C'est très compliqué. On gère à la fois l'angoisse des parents, notre incertitude. Parce que dire à un parent non, votre enfant n'a probablement pas le Covid, on ne le teste pas, ça engage notre responsabilité. Et donc, évidemment, qu'on attend enfin ces sacrés tests salivaires qui devraient, en tout cas, nous aider.
Ah, en tout cas, il y a une règle, donc vous disiez, avant 6 ans, on ne teste pas un enfant de, je sais pas, 3 ans qui, pour le coup, a des symptômes plus qu'un nez qui coule.
Non,
vous allez le tester, non,
Société française de pédiatrie dit, même s'il a de la fièvre, on ne le teste pas. On le testera uniquement s'il a été en contact avec un cas Covid à la maison, par exemple, ou s'il y a une personne très fragile, quelqu'un qui
dans
serait
l'entourage.
Sous chimiothérapie dans l'entourage. Là, on le teste, sinon, on les laisse tranquilles.
D'ailleurs, il y a vraiment un risque pour que nos enfants nous ramènent ce Covid à la maison, ou est-ce que c'est plutôt nous qui risquons de les contaminer? C'est ce qu'on disait.
Ce qu'on disait, ouais. C'est que la transmission se faisait des adultes vers les enfants, pas tellement dans le sens inverse. Là, on a l'impression que ce serait peut-être l'inverse, que ce serait le chaos, que les enfants seraient finalement un grand réservoir à virus. On n'a aucune preuve.
Ouais.
On ne sait plus. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que vous avez un cas à l'école que ça vient de l'école. Dans l'immense majorité des cas, les enfants sont contaminés à la maison, dans les fratries, dans les réunions de famille. Donc il faut qu'on arrête peut-être de penser qu'à l'école et qu'on ait une stratégie un peu plus globale.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Bernard Corté. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue au CHU de Lille et vous êtes président du groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses, le GRIO. Alors avec vous, aujourd'hui on va parler d'ostéoporose, hein, puisque c'est notre thème du jour. Et justement pour démarrer dans la clarté, on va dire pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut justement préciser un peu les choses? L'ostéoporose concrètement c'est quoi?
Alors, c'est une maladie généralisée du squelette qui se caractérise en fait par deux choses. D'une part, il y a moins de calcium, il y a moins d'os, d'où les os sont fragiles, ils peuvent se fracturer, je pense qu'on y reviendra. Et puis également, de manière un petit peu plus subtile, il y a également des anomalies, ce qu'on appelle de la microarchitecture osseuse. Et on peut faire l'analogie entre le fait que le tissu osseux, on peut se représenter ça comme une espèce de grue. Une grue, il y a des structures externes, des grosses structures qui sont des poutres, qui peuvent représenter la membrane externe qu'on appelle la corticale, qui va s'amincir au cours de l'ostéoporose, qui va se perforer. Et puis, il y a également des travées horizontales, hein, c'est ce qui fait que la grue tient debout. Et ces éléments horizontaux peuvent représenter les travées osseuses, qui elles-mêmes peuvent aussi s'amincir et se perforer. Et ces deux éléments vont concourir à fragiliser le squelette et à augmenter considérablement le risque de fracture en l'absence de traumatisme majeur.
Bon, avec cette image de grue, on comprend bien qu'effectivement, quand la grue est fragilisée, elle tombe. Jimmy,
ça commence à partir de quel âge et est-ce que ça touche autant les hommes que les femmes?
Alors, ça touche plus souvent les femmes que les hommes, notamment parce que les femmes, à partir en gros de l'âge de 50 ans, il y a un phénomène qui est inéluctable, qui est la ménopause. Et cette ménopause se caractérise par le fait qu'il n'y a plus d'œstrogènes au niveau des ovaires. Et les œstrogènes sont bénéfiques pour la santé en général et notamment pour la santé osseuse. Alors pour autant, les hommes peuvent aussi être concernés dans des proportions moindres. Pour les femmes, c'est à peu près 30 à 40% des femmes de plus de 50 ans. Et pour les hommes, c'est 15%. C'est donc plus rare, mais ce n'est pas forcément totalement négligeable. Et potentiellement, ça peut être également beaucoup plus grave.
Alors cette maladie, l'ostéoporose, que certains experts nient d'une certaine façon, on va y revenir, mais je crois qu'elle a pourtant des conséquences dramatiques puisqu'elle est à l'origine chaque année d'un nombre de fractures colossales en France. Hein.
Oui, globalement, on admet que dans la frange d'âge considérée, il y a près de 400 000 fractures de fragilité, donc majoritairement, comme je l'ai dit, chez les femmes. Alors, certaines fractures n'ont pas forcément de gravité potentielle, mais une fracture peut appeler plus tardivement une autre fracture. Et d'autres fractures sont potentiellement très graves, à la fois en termes de handicap, mais aussi en termes de mortalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines fractures qui vont être à l'origine d'un taux de décès plus conséquent que le taux de décès attendu compte tenu de l'âge de la population à laquelle on s'intéresse.
Jimmy ?
Donc l'ostéoporose mène à des fractures, mais des fractures à une localisation particulière. Est-ce qu'on peut se casser n'importe quel os en pensant que c'est de l'ostéoporose ou il y a un site de prédilection ?
Alors, c'est une maladie généralisée du squelette. Il y a certains os qui ne sont jamais atteints, comme par exemple le crâne ou les vertèbres cervicales, les doigts et les orteils. Mais il y a également des sites privilégiés. Et parmi ces sites privilégiés, il faut citer la vertèbre, il faut citer la hanche. Il faut citer également le bassin, il faut citer également l'humérus, hein, donc l'épaule.
Quand ils font le
également.
Col du fémur, on dit que c'est lié souvent à l'ostéoporose.
Dans la très grande majorité, la fracture du col du fémur, c'est une fracture de fragilité liée à l'ostéoporose. Mais pour autant, l'âge moyen des fractures de l'extrémité supérieure du fémur, c'est plus de 80 ans. Et donc l'idée, c'est évidemment d'agir nettement en amont.
Est-ce que l'ostéoporose, c'est une pathologie qui nous concerne, nous, en France, et puis dans les pays industrialisés? Ou est-ce que dans d'autres pays, ça touche aussi les personnes? Et est-ce que peut-être qu'il y a une différence entre les différentes ethnies, je ne sais pas, on a les os plus fragiles ou pas?
Oui, il peut y avoir une différence, notamment pour des raisons génétiques, et notamment en Afrique, globalement, il y a moins d'ostéoporose. Mais sinon, en gros, tous les pays sont quand même concernés par cette problématique.
Jimmy?
Et pas uniquement les pays industrialisés.
L'os est un tissu vivant, et on a compris que l'ostéoporose pouvait toucher quasiment tout, tous les sites. Mais comment expliquer que tout d'un coup, bah, il se fragilise, il y a un facteur? Alors, vous avez parlé un petit peu des hormones chez la femme.
L'os est vivant, Jimmy, je pense que ce n'est pas évident pour tous les auditeurs.
C'est un tissu vivant.
Pour les gens, l'os, c'est quelque chose qui est inerte. Ce n'est pas vivant, justement.
Oui, c'est vrai.
Pour vous qui êtes médecin, c'est peut-être simple, mais je vous assure qu'à mon avis, tout le monde n'est pas au courant du côté vivant de l'os.
Non, tout à fait. C'est vrai que c'est plus parlant quand on voit le cœur qui bat ou le poumon qui respire. Pour l'os, c'est moins évident. Mais pour autant, l'os est un tissu vivant comme les autres, bien évidemment. Ce qui veut dire concrètement qu'il se renouvelle en permanence. Et donc, il y a constamment de la destruction, mais également de la construction. Et qu'est-ce qui va se passer après la ménopause et singulièrement au cours de l'ostéoporose? Eh bien, il va y avoir plus de destruction que de construction. Donc, il y a toujours un couplage entre les deux, mais là, le couplage va poser problème. Et globalement, il y aura une fragilité osseuse et comme conséquence, des fractures.
Vous disiez donc que pour les femmes, c'est surtout après la ménopause. Donc, le vieillissement conduit à cette ostéoporose. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque, d'autres causes principales? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des maladies ou des médicaments qui peuvent causer ou aggraver l'ostéoporose?
Oui, bien évidemment. Alors, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont bien connus. Bon, notamment, il y a la génétique. Hein. Ce n'est pas une maladie à proprement parler où on sait qu'on aura 30 ou 50% de probabilité d'avoir cette maladie si un de ses parents est atteint, mais on sait qu'il y a quand même un contexte génétique important. On sait également qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. Donc, quand on fume et quand on boit, on sait que c'est pas bon pour la santé, notamment c'est pas bon pour la santé osseuse. Et puis, il y a également un certain nombre de maladies, notamment des maladies inflammatoires, par exemple la polyarthrite rhumatoïde, mais également des maladies inflammatoires intestinales, mais aussi un certain nombre de traitements. Un des plus connus, c'est la cortisone, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a certaines catégories d'antidépresseurs qui peuvent engendrer une fragilité osseuse.
Vous aviez dit la bronchite chronique, j'étais assez étonnée. Pourquoi ça peut
conduire? La bronchite chronique, c'est en fait une maladie inflammatoire avec des poussées véritablement inflammatoires. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand on fait de la bronchite chronique, on a une activité physique extrêmement restreinte. Et puis enfin, troisièmement, on est amené souvent à prendre de la cortisone, soit par la bouche, soit plus souvent par voie inhalée. Mais les données actuelles suggèrent que la cortisone, y compris inhalée, peut être délétère pour le squelette.
Professeur Corté, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Bernard Corté. Vous êtes rhumatologue, chef de service au CHU de Lille et président du groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses, le GRIO. Alors je crois que vous dites que dans l'ostéoporose, finalement donc il y a beaucoup de fractures, on en a parlé, qui sont liées à cette maladie. Et malheureusement, elles sont bien souvent, en tout cas quand c'est les premières, banalisées alors qu'elles devraient alerter à la fois par les patients et peut-être aussi malheureusement par les experts, les médecins.
Voilà, une fracture, c'est jamais banal. Alors encore une fois, si on prend l'exemple petit de la première fracture par fragilité qui survient après la ménopause, c'est la fracture du poignet. C'est pas grave en tant que tel, on va pas sans doute mourir d'une fracture du poignet. Mais pour autant, on sait que si on a fait une fracture du poignet et si on a une densité osseuse qui est basse, et on y reviendra tout à l'heure, on est à risque de faire quelques années plus tard une fracture beaucoup plus grave, comme une fracture de vertèbre, et encore plus tard une fracture de hanche. Raison pour laquelle ça ne doit pas être négligé ou banalisé.
Vous ne montrez pas du doigt là particulièrement les généralistes, mais peut-être qu'ils devraient en tout cas un peu plus s'en inquiéter quand ils ont leurs patients qui ont leur première petite fracture comme ça, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est clair que les médecins généralistes, du moins je pense, associent l'ostéoporose à la fragilité osseuse et à une densitométrie osseuse basse, mais ne font pas toujours le lien avec une fracture de fragilité. Et pour autant, on a la possibilité de prévenir les fractures les plus graves, moyennant un certain nombre d'options dont on discutera, je pense, tout à l'heure.
Justement, comment prévenir et savoir qu'on fait l'ostéoporose avant d'avoir une fracture, vu que c'est une maladie silencieuse? Est-ce qu'on peut essayer de s'en rendre compte avant de se casser le poignet, par exemple?
La réponse est oui. Hein. Donc, on a un examen qui est un examen fiable et qui est remboursé par l'assurance maladie depuis maintenant 2006 de mémoire, qui s'appelle la densitométrie osseuse, qui permet de mesurer la teneur en calcium du squelette. Et on sait que cette teneur en calcium du squelette est très fortement corrélée lorsqu'elle est abaissée à la probabilité de voir apparaître par la suite une fracture. Donc c'est un outil important à la fois dans le dépistage, mais également dans le cadre du suivi.
On va revenir sur cet outil juste après, mais juste une petite question. L'ostéoporose, en dehors de ces fractures qui arrivent à un moment donné, quand elle est peut-être déjà installée depuis longtemps, il n'y a pas de symptômes, ça fait pas mal, on a pas mal aux os, il n'y a aucun signe d'alerte?
Alors il peut y avoir des signes d'alerte, et notamment au niveau vertébral, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, notamment lorsqu'elle se prolonge, peuvent révéler l'existence d'une fracture vertébrale. Et puis, il y a une deuxième circonstance de découverte des fractures de vertèbres, c'est une perte de taille. Et on sait qu'une perte de taille assez conséquente, notamment par rapport à la taille d'identité...
Ça veut dire combien conséquente? On peut perdre jusqu'à
c'est
combien
4 centimètres.
Combien
4 centimètres.
Ah oui, quand même.
Alors, c'est gros 4 centimètres.
Jimmy, vous savez, ça vous ferait 4 centimètres de moins, ça se voit quand même.
Ouais. Mais quand on interroge...
vous seriez plus petit que moi, non?
Quand on interroge les femmes, on s'aperçoit que c'est pas si rare que ça, en fait, d'avoir une telle perte de taille. Et souvent, on a des surprises assez désagréables avec parfois, non pas une, mais plusieurs séquelles de fractures vertébrales.
Donc la prévention, c'est de faire des ostéodensitométries avant que la fracture n'arrive. Mais chez qui on devrait le faire? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on devrait tous en faire une, de la même façon qu'on fait une mammographie ou qu'on fait un examen de la prostate?
Alors à titre personnel, je pense, et au nom du griot qui a été cité tout à l'heure, je vous en remercie, on pense également que oui, partant du principe, je l'ai dit, l'examen est remboursé, mais il est remboursé sous condition. Et le paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus de fractures, il y a de plus en plus de gens âgés, et il y a de moins en moins de densitométrie osseuse de demandée. Et donc je pense qu'il faut simplifier les choses, et donc la barre d'âge, c'est certainement au-delà de 60-65 ans, et ça de manière systématique.
Donc je le fais à 60 ans, une fois, si on me dit tout va bien, je le refais tous les combien?
Alors ça va dépendre du résultat. Si les valeurs sont vraiment normales de chez normal, il n'est pas forcément utile de le répéter. Si l'abaissement est modéré, je pense qu'il faut le répéter 5 ans plus tard. Si la situation est un petit peu limite, même si elle ne nécessite pas forcément de médicaments, il faut le répéter 2 à 3 ans plus tard.
Mmh. Jimmy ?
Très peu d'auditeurs, à mon avis, connaissent cet examen, l'ostéodensitométrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça se passe ?
Alors c'est un examen très simple, qui ne nécessite aucune précaution particulière, qui n'est quasiment pas irradiant. C'est beaucoup moins irradiant qu'une radiographie de thorax, et encore moins qu'un scanner. C'est un examen qui fait pas mal, qui ne nécessite pas d'injection particulière, il ne faut pas être à jeun. Ça dure une dizaine de minutes, donc on est en position allongée et on fait deux mesures. D'une part, une mesure au niveau de la colonne vertébrale, en bas du dos, ce qu'on appelle le rachis lombaire, et d'autre part, une deuxième mesure au niveau de la hanche. Donc le choix des sites n'est pas conditionné par le hasard, puisque ces deux sites sont des sites potentiels de fractures liées à une ostéoporose.
Et qu'est-ce qu'on voit précisément à cet examen? Est-ce qu'on voit la qualité de l'os, donc au niveau du dos, là, comme vous l'avez décrit, et de la hanche, ou est-ce qu'on voit quelque chose d'autre? Je ne sais pas.
Non, en fait, ce sont des chiffres, donc c'est vraiment purement quantitatif. On mesure des grammes par centimètre carré, en gros.
Pour nous, ça ne vaudra pas dire grand-chose, mais pour le médecin, c'est une bonne mesure.
Alors, en fait, ce n'est pas très parlant. J'explique toujours aux gens le résultat de l'examen. Et c'est la raison pour laquelle les résultats sont exprimés en fonction de courbes de référence. Et donc, il y a un graphique qui permet de voir où la patiente ou le patient se situe par rapport aux femmes de son âge et puis également par rapport aux femmes à ce qu'on appelle au moment du pic de masse osseuse, c'est-à-dire à la fin de la croissance, où on a la densité osseuse la plus élevée tout au long de la vie.
On voit s'il y a peu ou pas beaucoup, peu ou beaucoup de calcium dans l'os, par exemple,
voilà,
ça on voit.
Mais même si c'est purement quantitatif, on peut se dire, bah oui, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi la qualité, mais la quantité joue un rôle plus important que la qualité, et on sait que cet élément-là explique à peu près 60 à 70% de la résistance du squelette.
Mmh. Jimmy ?
Vous l'avez dit, cet examen est remboursé sous certaines conditions. D'ailleurs, sous quelles conditions on peut être remboursé lorsqu'on vous prescrit cet examen ?
Alors, par exemple, les femmes qui ont déjà fait des fractures, ou les hommes également, les femmes ou les hommes qui sont exposés à un traitement par cortisone dont on a parlé tout à l'heure. Chez la femme, après la ménopause, il y a des conditions qui sont un peu plus larges, notamment celles qui ont eu une ménopause précoce, celles qui sont très maigres, celles dont la maman a fait une fracture de hanche. Donc, c'est parfaitement logique, ces conditions. Mais en pratique, je pense que c'est tellement compliqué pour les médecins généralistes qui ne savent pas quand c'est remboursé ou pas remboursé. Alors, il y a des
mais
régions où ça ne pose pas de
problème. Mais vous, au chef de la tête, ce n'est pas évident pour vous, les généralistes, Jimmy ?
D'une, ce n'est pas évident. Et deux, si on attend la fracture, c'est trop tard. Donc, autant l'anticiper dans une prévention plutôt que dans
le
curatif.
On devrait dire que c'est remboursé pour tout le monde à 60 ans. Et
voilà,
puis ça
raison
réglé,
pour laquelle
quoi.
Je pense que ça serait beaucoup plus simple.
Surtout qu'on fait d'autres examens inutiles. On fait des scanners pour un oui, pour un non, des IRM en voiture, en voilà. Alors que l'ostéodensitométrie, on pourrait peut-être se poser la question.
On est d'accord.
Corté, on va faire une courte pause encore une fois et on continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Bernard Corté. Vous êtes rhumatologue, chef de service au CHU de Lille et président également du groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses, le Griot. Alors avec vous, on parle d'ostéoporose aujourd'hui et on va peut-être dire un mot à ce moment-là de prévention. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la prévenir, cette maladie, cette dégénérescence de l'os, si je puis dire? Est-ce que par exemple, chez des patients chez qui ça débute, est-ce que, je ne sais pas, des mesures d'hygiène de vie peuvent aider à, je sais pas, le renforcer, ralentir cette maladie?
Oui, tout à fait. Alors, on peut le prévenir de manière partielle. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas bonnes pour la santé, notamment pour le squelette. Donc, tabac, alcool. Donc là, très clairement, si c'est quelqu'un qui fume ou qui consomme de manière excessive de boissons alcoolisées, il faut bien sûr lui conseiller de faire quelque chose. Et puis, d'un point de vue peut-être plus positif, l'alimentation joue un rôle. Et notamment au niveau alimentaire, il y a deux éléments principaux à prendre en considération. Il y en a d'autres, c'est le calcium. C'est assez logique. On a vu qu'on mesurait la quantité de calcium. On se doute bien, donc il faut en apporter. Donc le calcium est notamment, mais pas uniquement, contenu dans les produits laitiers. Outre le lait, notamment les fromages, et particulièrement les fromages à pâte dure contiennent beaucoup de calcium.
Quelle dose par jour il faut consommer pour avoir des bons os et prévenir l'ostéoporose?
Théoriquement, dans la frange d'âge qui nous intéresse, c'est à peu près de l'ordre de 1 gramme, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir.
Ça veut dire combien
obtenir.
Ça Parce qu'un gramme pour les gens de calcium.
Alors pour que vous ayez un ordre d'idée, un litre de lait c'est 1 gramme, un yaourt c'est à peu près 160 mg. Donc ça veut dire en consommer beaucoup, mais il y a aussi d'autres aliments que je ne vais pas citer parce qu'il y en aura quand même beaucoup qui contiennent moins de calcium et donc qui peuvent permettre en tout cas de s'en approcher. Et puis enfin, il y a certaines eaux minérales qui ont une teneur en calcium relativement importante, de l'ordre de 500 mg.
Quand même,
vous voyez qu'avec une alimentation satisfaisante et en utilisant une de ces eaux minérales, qu'elle soit plate ou pétillante, eh ben, on peut arriver entre guillemets à corriger le tir.
Jimmy ?
Vous l'avez dit, mais ce n'est pas forcément évident dans la tête des gens. Alcool et tabac sont des facteurs de risque d'ostéoporose. On associe souvent ça à des maladies cardiovasculaires ou à un cancer. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses dans notre mode de vie ? Est-ce que le surpoids, le manque d'activité physique pourrait impacter, comme l'arthrose, l'ostéoporose ? On sait que des gens qui ont des gonarthroses, si l'on fait perdre un peu de poids, bah ça va mieux.
Gonarthrose, l'arthrose au niveau du genou.
Ou s'ils font de l'activité physique, ça a un véritable bénéfice. Est-ce qu'on pourrait essayer de ralentir l'évolution, en tout cas de prévenir quelques petites choses ?
Voilà, tout à fait. Alors, outre en effet les aspects purement alimentaires, l'activité physique c'est quelque chose de bénéfique pour la santé en général, notamment pour la santé osseuse, en sachant qu'il y a une singularité pour l'ostéoporose, c'est que ce sont les activités ce qu'on appelle en charge qui sont bénéfiques, c'est-à-dire au minimum la marche à pied, mais la marche nordique c'est encore mieux, la course à pied c'est encore mieux, ça peut être le squash, ça peut être le tennis ou tout ce que vous voulez. Alors par rapport au poids, en fait il s'avère que le fait d'être un peu replet, dans le domaine des os, c'est quelque chose en fait qui est bénéfique.
Ouais, c'est la première fois qu'on vous fait un compliment, Jimmy. Vous allez avoir de bons os, vu que votre état actuel.
Mais bon, il faut tenir compte de tout le reste d'une part, et d'autre part, quand on franchit un seuil excessif qui est celui de l'obésité, aussi paradoxal que ce soit, on peut voir apparaître des fractures qui ne sont pas des fractures réellement ostéoporotiques, mais qui peuvent traduire une fragilité des os, notamment la fracture de l'épaule, notamment la fracture de jambes et particulièrement de cheville, sont les fractures liées à l'obésité.
Un peu replé, ça vous va très bien, je trouve, comme objectif. On va passer à la prise en charge, professeur, à présent, de cette maladie. Une fois qu'elle est avérée, on va prendre en charge ces patients de quelle façon ? Je crois qu'il y a des médicaments, les biphosphonates, pour ne pas les citer. Comment ça fonctionne et à qui on les donne ?
Alors, il y a des recommandations qui sont très clairement établies. Et notamment, on a vu qu'il y avait certaines fractures qui étaient plus graves que d'autres, puisque à l'origine d'une mortalité plus conséquente que la mortalité attendue, comme la fracture de vertèbre ou la fracture de hanche. Et donc là, très clairement, les recommandations françaises, mais également mondiales, indiquent dans ces conditions-là, en dehors de tout ce qu'on a vu sur le plan de l'activité physique, etc., il faut ajouter un traitement médicamenteux, qui est le plus souvent en effet un traitement par bisphosphonate. Alors, on a vu tout à l'heure qu'un des éléments qui caractérise l'ostéoporose, c'est qu'il y a plus de destruction que de construction. Et donc, le but, notamment, d'un traitement par bisphosphonate, c'est de rééquilibrer le squelette de façon à faire en sorte qu'il y ait moins de destruction. Et ces médicaments qu'on connaît depuis très longtemps ont fait la preuve de leur intérêt en termes de prévention des fractures. Alors, dans la vraie vie,
De l'os qui se construit, juste pour bien comprendre, il y en a jusqu'à la fin de la vie quand même. Même si vous dites qu'il y en a plus qui se détruit quand on a de l'ostéoporose.
Ah, bien sûr.
Mais il continue de se construire, l'os, jusqu'à 90 ans.
Tout à fait. Et donc, ces bisphosphonates ont fait la preuve de leur intérêt. Et globalement, par rapport à un placebo, même si, comme je l'avais dit, dans la vraie vie, il n'y a pas de placebo, pour les traitements les plus efficaces, par rapport à un placebo, on a une diminution du risque de fracture, notamment de vertèbre, qui est au-delà de 50%, qui peut atteindre jusqu'à 70%. Donc, c'est des médicaments très efficaces.
D'ailleurs, ça paraît tout bête, mais quand on dit ostéoporose, ce n'est pas une maladie qui fait peur, puisque lorsqu'on vous dit que vous risquez une fracture du poignet, par exemple, on vous dit, au pire, j'aurai un plâtre. Même chose pour les vertèbres. On n'a pas le sentiment que c'est quelque chose de grave, mais vous dites que malgré tout, ça a un impact peut-être, alors déjà sur la qualité de vie, mais aussi sur la mortalité.
Oui, pour ces fractures, notamment vous avez cité la vertèbre, et c'est pareil pour la hanche, il y a une mortalité qui est de l'ordre de 20 à 30% supérieure à la mortalité attendue par rapport à l'âge de la population.
Ouais, c'est quand même
donc ça peut être très grave.
Très impressionnant. Les biphosphonates dont vous avez parlé, ça se prend, c'est des cachets qu'on prend par la bouche, des piqûres, comment ça se passe ?
Alors ça peut se prendre sous forme de cachets, en général c'est une fois par semaine, mais ça peut également se faire sous forme d'une perfusion qu'on fait au domicile. C'est assez simple la perfusion, parce que c'est simplement une perfusion par an.
Ah oui.
Alors que les cachets c'est toutes les semaines. Mais
pratique.
Voilà, chacun est libre de prendre les médicaments comme il le souhaite et il faut en discuter, il faut qu'il y ait un dialogue singulier avec la patiente et le choix se fait de manière commune.
Jimmy ?
Donc on commence à vous les donner quand vous avez de l'ostéoporose, mais du coup, quand vous commencez à en avoir, vous en avez toute la vie. Est-ce que c'est un traitement qu'on doit prendre jusqu'à la fin ?
Alors la réponse est non. Enfin, pour les bisphosphonates, en tout cas, la réponse est non. Alors c'est des médicaments qui sont assez singuliers, puisqu'en fait, ils s'incorporent progressivement dans la matrice osseuse. Donc moi, je présente souvent l'image que c'est l'espèce de couche successive qui s'empile. Il arrive un moment où, quand l'empilement est suffisant, ce n'est pas forcément la peine de continuer.
Donc et 10 donc, ans maximum, je
voilà.
crois.
Ouais. Et lorsque on prend cette décision de suspendre, bien évidemment, on va continuer à surveiller les patientes. Et en règle générale, en tout cas dans un premier temps, même en cas de suspension du traitement, eh bien, la densité osseuse ne bouge pas et il n'y a pas de résurgence des fractures.
Ils n'ont pas très bonne presse, ces médicaments. Pourquoi ?
Alors, ils n'ont pas très bonne presse, que je pense. Il y a souvent une confusion entre ces médicaments qu'on donne dans l'ostéoporose, et c'est le plus souvent dans l'ostéoporose qu'on les donne, mais on les donne également chez des gens très malades qui ont des métastases osseuses, à des doses qui sont beaucoup, beaucoup plus élevées. Et essentiellement, dans les métastases osseuses, il a été décrit une complication grave et pas du tout sympathique, qui s'appelle l'ostéonécrose de la mâchoire, dont la fréquence est de l'ordre de 1%, ce qui est quelque chose quand même d'important chez des gens, par ailleurs, qui sont très malades. Alors, il a été décrit, hein, il est vrai, quelques cas dans le domaine de l'ostéoporose, et maintenant, à travers notamment les registres scandinaves, on a une bonne idée de la fréquence de ce phénomène, et c'est de l'ordre de 1 cas sur 10 000.
D'accord. Jimmy ?
Et vous l'avez dit, dans les formes plus sévères, on peut peut-être faire des injections, c'est ça, de contre l'ostéoporose ?
Alors voilà, les médicaments comme les bisphosphonates vont ralentir le cours évolutif des choses, mais ce n'est pas un traitement qui va permettre, entre guillemets, de refaire de l'os. Donc on a un traitement qui permet de refaire de l'os. Bon, le nom est un nom un peu compliqué, ça s'appelle le teriparatide, mais c'est ce qu'on appelle un agent anabolique osseux, et donc c'est un traitement pour lequel on peut escompter
là,
des
gains.
Là,
c'est quand c'est très sévère, quand même.
Voilà, c'est ça. Il faut avoir au moins 2 fractures de vertèbre, qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est les traitements également qu'on donne moins longtemps, mais qui doivent être obligatoirement relayés par un autre traitement.
Pour terminer, chez les femmes, il y a aussi un autre traitement qui n'est pas indiqué pour l'os particulier, mais le traitement de la ménopause, qui peut apporter un support, je ne sais pas, en tout cas aider dans le cadre de l'ostéoporose.
Tout à fait. Quand on est amené à découvrir une fragilité osseuse chez une patiente relativement jeune, c'est-à-dire peu de temps après la ménopause, la meilleure option thérapeutique, c'est certainement le traitement hormonal de la ménopause, pour son bénéfice osseux qui est bien prouvé, à la fois en termes densitométriques, mais aussi en termes de prévention des fractures. Mais il est évident que si on a affaire à une patiente qui a 70 ou 80 ans, il est trop tard pour envisager un traitement hormonal.
Professeur Corté, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On comprend mieux les enjeux autour de cette maladie et donc l'intérêt de dépister l'ostéoporose le plus tôt possible. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est temps à présent de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle des hémorroïdes. Savez-vous précisément ce qui se passe ?
Quel jeu d'acteur ?
Vous avez vu un peu ? J'ai fait le cours Florent, c'est pour ça.
Luc Besson vous appelle là.
Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, Jimmy, quand on a une crise hémorroïdaire ? Quels sont les facteurs de risque et surtout comment ça se soigne ? Benjamin Lévesque, notre reporter à qui aucune question ne fait peur, a été vous interroger, oui, sur les hémorroïdes. On écoute son micro-trottoir.
Ce sont des veines qui se trouvent au niveau de l'anus.
C'est une sorte d'inflammation du sang, enfin, qui crée des boules, hein, des excroissances au niveau anal.
Il y a deux types d'hémorroïdes, celles internes et celles externes, il me semble.
Si on est constipé, c'est une catastrophe, parce que c'est horrible.
Par de vagues souvenirs, je pense qu'on peut en avoir quand on est enceinte.
L'alimentation, le fait que de manger, par exemple, si on mange tout le temps des fast-foods, des choses comme ça, le transit, il a du mal à tout bien digérer, donc ça forme des caillots de sang. Et ça
peut, au pire, sans se faire enlever par un proctologue, je pense.
Le médecin m'avait conseillé de ne pas manger trop salé ou trop épicé.
Il existe des crèmes pour ça qu'on doit mettre.
Après, on peut aussi consulter un gastro-entérologue. Si c'est plus dangereux, je pense qu'il y aura des examens, une coloscopie, des choses comme ça pour déterminer déjà d'où vient le problème.
Bon, Jimmy, dans ce micro-trottoir, honnêtement, c'est quasiment un sans faute à croire que c'est vraiment quand même un sujet très, très, très concernant. Vous, en consultation, je crois que vous en voyez pas mal. Les hémorroïdes, Jimmy, on a peu près compris dans quelle zone ça se situe, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même, après tout, c'est vous le docteur, hein, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ça aurait grand plaisir, un dossier qui me passionne, les hémorroïdes. Effectivement, c'est un motif très fréquent en médecine de ville. Alors, il faut parler plutôt de maladies hémorroïdaires, puisque les hémorroïdes sont présentes de façon normale chez tout le monde. C'est des artères et des veines qui sont présentes à l'intérieur et à l'extérieur. Et lorsqu'il y a un trouble de la circulation.
À l'intérieur et à l'extérieur de quoi ?
Du canal anal dans les fesses, voilà. Oui, les hémorroïdes, bah oui, au niveau de la marge anale.
Oui, mais il faut être précis. Hein.
Donc, vous en avez dans le rectum et puis vous en avez à l'extérieur. Ouais. Et lorsqu'il y a un trouble de la circulation, elles gonflent, elles font mal, c'est les hémorroïdes.
Oui, c'est clair, on a bien compris, on n'avait pas besoin d'un dessin.
Est-ce que c'est besoin d'un dessin pour
les hémorroïdes ? Allez, c'est très fréquent ou pas dans la population ? Et pourquoi tout d'un coup on peut faire une crise ? Puisque vous avez dit des hémorroïdes, on en a tous, mais ça se met à gonfler à mon
avis. Oui, alors c'est très fréquent, ça touche autant les hommes que les femmes d'un âge plutôt mûr, entre 40 et 65 ans, vous verrez Mélanie. Et il y a certains facteurs de risque qui peuvent justement déclencher ou favoriser la crise hémorroïdaire. Le premier classique, c'est la constipation. Vous êtes constipé, vous avez du mal avec des selles, donc vous allez pousser. Et quand vous allez pousser, vous allez faire sortir les hémorroïdes. Et donc vous allez avoir mal. Et à contrario, une diarrhée très importante. importantes, peut-être ça vous est déjà arrivé,
irritantes
en fait, vont vous donner aussi des hémorroïdes. Mais ce n'est pas tout. Si vous toussez de façon chronique, celui qui a la BPCO, eh bien, à force de tousser, il va avoir un effort de poussée au niveau de la marge anale et donc les hémorroïdes vont sortir. Même chose avec le surpoids, l'alcool ou aussi des plats un peu épicés. Hein,
ça,
quand ça pique dans la bouche,
ouais,
ça pique dans les fesses.
C'est clair. Alors, Jimmy, les femmes, ça leur arrive aussi au moment de la grossesse, je crois.
C'est très fréquent, surtout en fin de grossesse. C'est 20% d'entre elles qui vont souffrir, notamment après l'accouchement. C'est lié à des phénomènes hormonaux, notamment. Et puis aussi, il y a de la constipation quand on est enceinte.
Oh, puis
il y a le travail et puis l'accouchement où on sort un bébé de 3 kilos. Là, donc forcément, c'est compliqué, ça fait mal.
Heureusement, Jimmy, en général, c'est passager. On estime que ça dure d'ailleurs entre 2 et 4 jours. Ça fait mal, parfois ça saigne, mais c'est pas grave, c'est jamais grave.
C'est jamais grave, mais il faut quand même en parler au médecin. Il ne faut pas avoir peur de montrer ses fesses quand vous avez une hémorroïde.
Oui, parce que vous avez des patients qui sont gênés.
Oui, ils sont gênés, ils me disent.
Ils appellent pour ça, mais ils n'osent
pas montrer. Ils me disent, je fais une crise hémorroïdaire, mais il faut regarder pour plusieurs raisons. D'abord, on n'est pas sûr que ce soit une hémorroïde. Vous avez le droit d'avoir une tumeur au niveau de la marge anale ou à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas parce que vous pensez avoir mal aux fesses que c'est forcément une hémorroïde. Et puis, parfois, il peut y avoir des complications de l'hémorroïde, même si dans l'immense majorité des cas, ça passe tout seul. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une thrombose, c'est-à-dire que le sang ne circule plus du tout, ça fait un gros caillot. Et la seule façon de s'en débarrasser, c'est de faire une petite excision, en fait, de le vider, l'hémorroïde, pour être soulagé. Donc, il faut montrer vos fesses
le sang
quand vous avez mal au niveau de la marge anale.
J'adore cette conclusion, il faut montrer vos fesses.
Oui, c'est pas quand vous avez une angine, c'est bizarre. Le médecin qui vous demande vos fesses pour.
Les traitements, il y en a quand c'est pas grave et quand il n'y a pas de
traitement.
Ce que vous venez de dire,
local, anti-inflammatoire,
des
parfois.
Crèmes.
Surtout, on traite la constipation lorsque vous êtes constipé. Donc, souvent, on vous donne plutôt des laxatifs. Et dans certains cas, on est obligé d'adresser au proctologue qui, lui aussi, peut faire un geste derrière dans l'hémorroïde compliquée.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Hein. C'était très, très clair.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 dans son rendez-vous aujourd'hui comme tous les jours. Et tout de suite, donc, c'est Catherine Blanc qui arrive avec nous dans ce studio. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et vous venez aujourd'hui pour répondre à cette question d'Émilie que Jimmy va nous lire tout de suite.
Mon copain avec qui je suis depuis près de 4 ans a le défaut de ne pas être tactile. Il refuse les papouilles et caresses, que ce soit en public ou chez nous, devant un film par exemple. Je me pose beaucoup de questions. Je me demande si je me vois réellement faire ma vie avec un homme qui ne me touche uniquement pour me faire l'amour. Qu'en pensez-vous, Catherine ?
Catherine, pour commencer, c'est pas étonnant, les personnes, d'ailleurs, hommes comme femmes, hein, qui n'aiment pas se faire toucher par leur conjoint, quand même.
Oui, c'est pas évidemment la plus grande partie des gens, heureusement, mais certains sont en difficulté parce que, effectivement, ça renvoie peut-être à des histoires personnelles d'enfance, petite enfance, des enfants qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été câlinés ou qui ont été malmenés, voire battus, hein, par exemple, et qui ont du mal à la caresse, qui ont du mal à venir chercher ce qui est pourtant fondamentalement la recherche de tout mammifère. Donc pas seulement les humains, hein, mais aussi tous les autres mammifères.
Les chats veulent être caressés, les chiens.
Exactement. À compter du moment où on a été dans un ventre, on a grandi, l'éveil de notre système nerveux a évolué sous les caresses du bébé, du nourrisson, dans la paroi intra-utérine. Et c'est ce que nous allons naturellement chercher, qui est source de sécurité, de réassurance. Mmh. Donc assez naturellement, nous allons tous vers cela. Et quand nous n'y allons pas, quand nous nous en défendons, ça rend compte de quelque chose qui a été abîmé, traumatisé, d'un point de vue psychique ou d'un point de vue physique.
Jimmy.
Ça veut donc dire qu'il a vraiment un problème, pas forcément avec elle, mais il a quelque chose à régler avec lui ou en tout cas sa vie passée.
Absolument, parce que vous avez par exemple j'ai rencontré des cas de figure de cet ordre-là qui sont un parent s'en va, un parent abandonnant son enfant pour une raison ou une autre, et bien l'enfant qui naturellement va chercher la caresse et le câlin va essayer de se convaincre qu'il n'aime pas ça pour pas souffrir l'absence par exemple. Et donc oui, il faut essayer de comprendre, non pas qu'on ait absolument besoin d'être touché, caressé. On voit bien que d'ailleurs, en termes de culture, on n'a pas tous la culture tactile. C'est aussi quelque chose qui va les sociétés dans lesquelles nous évoluons.
En ce moment, le tactile, on le met un peu de côté de toute façon.
Ce qui fait la souffrance de certains. Ouais. Et regardez d'ailleurs les ados qui se claquent la bise quand même avec les masques, donc au travers des masques, ou qui enlèvent les masques et qui se serrent dans les bras par souffrance.
Jimmy
ne
va pas
distance.
Valider du tout ça, hein, mais bon.
Maintenant, il ne va pas valider, mais c'est pour comprendre
la
nature humaine cherche le contact. Et puis, dès qu'on est traumatisé ou anxieux, et dès qu'on nourrit l'anxiété, effectivement, malheureusement, la situation de Covid aujourd'hui va avoir tendance à nourrir cette anxiété, et bien évidemment, ça fera chez certains une sorte de besoin de repli et de mise à distance de l'autre perçu comme étant un danger. Donc évidemment que ce n'est pas quelque chose qui se construit dans notre vie d'adulte, mais plutôt dans notre vie d'enfant où l'autre a été perçu dangereux ou par ce qu'il a fait ou par ce qu'il n'a justement pas fait. Et du coup, on se préserve de cette possibilité-là.
Ça paraît rien comme ça, elle demande des papouilles, des câlins. On a compris que c'est sûrement parce que lui donc, a peut-être un problème personnel à régler, on va dire. Mais ça peut remettre un couple en question parce qu'elle a l'air d'en souffrir. Elle aimerait avoir un peu plus de câlins. Est-ce que c'est quelque chose qui est si important dans le couple quand même?
Si on a deux personnes qui de toute façon ne sont pas tactiles pour des raisons similaires ou différentes mais qui amènent au même résultat, le couple fonctionne très bien de cette manière-là. D'ailleurs, souvent, ce sont les enfants qui m'est arrivé de recevoir qui souffrent du fait que leurs parents, leurs deux parents n'étaient pas tactiles et qu'ils n'ont pas trouvé le chemin pour pouvoir exprimer cela dont ils avaient eux-mêmes besoin. Quand il y en a un qui en a le désir et l'autre qui en a l'incapacité, évidemment que ça pose la question de la frustration pour celui qui en a le désir et à quel moment cette frustration est... On peut vivre avec la frustration et à quel moment ça frise le masochisme et auquel cas faut-il s'imposer une relation qui me fera souffrir toute ma vie. Et on peut aussi se poser la question, pourquoi suis-je allée vers cet homme qui, dit-elle, me fait souffrir.
Dernière petite question, Jimmy.
Est-ce qu'il faut se forcer, du coup, à aller vers l'autre quand on est un peu, pas un robot émotionnel, mais quand on est un peu froid ou à distance comme ça?
Se forcer, évidemment, non, mais on peut essayer de petit à petit voir qu'il n'y a pas de danger, que se laisser toucher, se laisser caresser. Donc, je pense que celui qui est plus à l'aise peut montrer, il ne faut pas qu'il soit étouffant, mais peut montrer que ce peut être agréable, ce peut être doux, et sans, évidemment, venir toucher celui qui a du mal, dans l'attente qu'il le fasse comme une revendication, parce que du coup c'est une pression et c'est assez étouffant et ça fait plutôt fuir l'autre que lui apprendre les codes relationnels. Donc c'est pas se forcer, mais c'est essayer de s'apprivoiser comme on apprivoisait le renard dans Le Petit Prince.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, nous prendrons soin des pieds des enfants. Notamment, nous parlerons de comment choisir les bonnes chaussures qui ne perturbent pas la physiologie de ces petits pieds en formation. Mais tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, un thème qui devrait vous intéresser de manière purement théorique, bien sûr, pour ceux qui vous connaissent dans la vie. C'est à boire qu'il leur faut, Stéphane.
Mais oui, avec nous, trois personnages qui ont aimé la bibine.
Oui. Hein,
voilà, qui, sans modération.
Sans modération. Oui. Et parfois, ça leur a même réussi.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, nous allons vous raconter les destins de Lord Byron, ce célèbre romantique britannique. Ensuite, de Sir Winston Churchill, premier ministre britannique. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a que des Anglais qui se boivent. Et vous, Mathieu?
Moi, c'est un petit Frenchie. C'est notre Gérard Depardieu national.
Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une belle émission avec un tel programme, je n'en doute pas. Donc, je vous le conseille vivement. Surtout, restez sur Europe 1.